Chaque jour, les chrétiens persécutés sont confrontés à un choix. Suivre le mouvement de la société qui les entoure, ne pas se faire remarquer par les voisins, par les autorités du pays, bref, être conforme à tout ce qui les entoure. Ou bien, adorer Dieu et prendre au sérieux sa parole et ses enseignements. Dans ce cas, ils seront dans certains pays, même en France, on a eu le témoignage de Maria, exposés à de graves ennuis. En revanche, si vous croyez que Jésus est né à 25 décembre à minuit, sous un sapin décoré de guirlandes et de boules, là, vous ne risquez pas grand-chose. Mais nous sommes prévenus. Jésus nous l'a déjà dit. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nous sommes prévenus. Si nous voulons annoncer la bonne nouvelle de Christ, mort et ressuscité, attendons-nous à ce que les difficultés surgissent. Ce matin, comme vous le savez, on vous l'a déjà dit, l'association Portes Ouvertes nous invite à nous rendre plus proches, par la pensée, par la prière, à ces frères qui sont persécutés dans le monde. Dans le même temps et pendant tout le mois de novembre, notre communauté est invitée à réfléchir plus spécialement au thème de la confiance dans le Seigneur. Confiance qu'on retrouve dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, ceux qu'on appelle les héros de la foi. Dans mon message, je vais essayer de lier ce thème de la persécution avec le témoignage d'un personnage, j'allais dire un monument, qui a connu à la fois la persécution, qui a vécu une relation de confiance avec le Seigneur. Et cette confiance, je souhaite qu'elle nous inspire. Je veux parler de l'apôtre Paul. Alors certes, il ne fait pas partie de la liste contenue dans Hébreux 11, mais je crois qu'il a une place importante dans notre vie de chrétien. Et je ne pouvais pas l'ignorer. Mon propos ce matin sera donc d'interroger Paul à travers quelques épisodes de sa vie et de ce qu'il a écrit sur la manière dont il a pu affronter les multiples persécutions à cause de sa foi, et aussi la confiance en Dieu, toujours présente dans le combat qu'il a mené jusqu'à la fin. La vie de Paul est riche d'une proximité avec Dieu sans pareil. Il est possible d'analyser cette vie en quatre parties qui sont autant d'étapes et de marqueurs bien précis. Il y a tout d'abord Paul, le pharisien persécuteur. Ensuite, Paul à qui Jésus va se révéler pour lui confier une mission. Ensuite, Paul qui viendra, lui, persécuté et serviteur de Christ. Enfin, Paul le persécuté affrontant la persécution dans la confiance en son Seigneur. Merci. Voyons d'abord Paul, le pharisien persécuteur. Qui est Paul? Eh bien, je crois qu'il faut lui laisser la parole. Il nous le dit en Actes 22, « Je suis juif, je suis né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé ici, à Jérusalem, et j'ai eu Gamaliel comme maître. Il m'a enseigné de façon très exacte la loi de nos ancêtres. J'étais plein d'ardeur pour Dieu, comme vous tous aujourd'hui. » Donc Saul, puisqu'il s'appelait comme ça au début, Saul est donc un juif. C'est un juif instruit. Il a été élevé à Jérusalem et enseigné par Gamaliel. Gamaliel était un membre influent du Sanhédrin et qui était tenu en grande estime par les Juifs. Paul est membre du parti des pharisiens et vit selon les règles les plus strictes de sa religion juive. Fier de l'héritage de ses pères, il obéit à la loi mosaïque jusque dans les moindres détails, persuadé qu'il jouit ainsi de la faveur de Dieu. la première partie de sa vie est donc placée sous le signe de l'orthodoxie scrupuleuse de la loi de Moïse. Il sera, comme tous les pharisiens, farouchement hostile à cette nouvelle secte qu'il appelle la voie, c'est-à-dire les chrétiens. Un sentiment d'importance l'habite. En effet, il porte des lettres du grand prêtre qui lui permettent d'arrêter tout juif qui croit dans la divinité et la résurrection de Jésus-Christ. Il a assisté, sans doute avec jubilation, à la lapidation d'Étienne. Plein d'une haine violente, il était prêt à les faire mourir. Dans le livre des Actes, on peut lire par exemple « Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. » Au plus loin, « J'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait arrêter et jeter en prison des hommes et des femmes. » Et puis, il y a eu cet événement. Cet événement, comme vous le savez tous, c'est sa rencontre avec Jésus, alors qu'il se dirige vers Damas. Damas, dans cette ville, il va arrêter un certain nombre de Juifs qui croient dans cet imposteur nommé Jésus. De persécuteur acharné, Paul va devenir le persécuté pour Christ. Écoutons Luc nous raconter l'événement. Paul faisait route et approchait de Damas quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ?»« Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il était aveugle. On le conduisit par la main pour le faire entrer à Damas. Alors on pourrait se dire, mais Dieu, il n'a pas une attitude un peu étrange dans cette histoire. Voilà qu'il va le faire de Paul son émissaire, il va l'envoyer en mission, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le met à bas de son cheval et il le rend aveugle. C'est une drôle de façon de confier une mission à quelqu'un. Mais je crois que Dieu a toujours des bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Paul était sans doute un pharisien tellement sûr de lui et de sa foi qu'il était certainement très orgueilleux. Et Dieu voulait faire de Paul un serviteur humble et confiant. Et que sa propre volonté s'efface devant celle de Christ, son maître désormais. Je suis Jésus que tu persécutes. Sans doute saisi de peur, celui qui est à terre comprend que celui qui lui parle, c'est bien Jésus. Ce Jésus que des Juifs comme lui ont persécuté et ont tué. Il en est tellement sûr qu'il se soumet à l'instant. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? La suite ? Vous la connaissez. Paul sera conduit à Damas, chez Ananias qui lui révélera le message de Dieu pour lui. Et Paul dira, le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit, je t'ai établi pour que tu sois la lumière du monde, la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. Dès lors, Paul va se consacrer entièrement à la cause de Christ et à la mission qui lui a été confiée. Et il ne cessera plus de parcourir tous les pays autour de la Méditerranée. Pour remplir cette mission, Être la lumière des nations. Porter le salut jusqu'au bout du monde. Il le dira plus tard à Timothée, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Troisième étape, la persécution. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, vous aussi, nous dit Jésus. Pendant sa vie au service de Christ et pour servir sa mission, Paul a dérangé. Oui, il a dérangé. Il a dérangé le pouvoir de l'occupant romain. Et il a dérangé aussi les autorités religieuses juives. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, sa foi nouvelle l'a conduit à vivre à contre-courant de la société juive dont il était issu. Cette attitude non conforme était la conséquence de sa mission, porter le salut jusqu'au bout du monde. Cela ne pouvait pas se faire sans bousculer l'ordre établi, sans être à contre-courant du conformisme ambiant des autorités juives. Paul savait qu'il aurait à souffrir. Il le rappellera d'ailleurs à Timothée. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Hier comme aujourd'hui, celui qui marche sincèrement à la suite de Jésus dérange son entourage. Le message de l'Évangile bouscule. Il dérange les non-croyants parce qu'il est souvent non conforme au monde, non conforme à l'air du temps, non conforme au mode. Posons-nous la question. Pourquoi est-ce qu'on persécute? Ou plutôt, quelles sont les allégations qui justifient la persécution? On peut noter que ces allégations sont les mêmes aujourd'hui qu'au temps de Paul. D'abord, j'en retiendrai deux. D'abord, on accuse les chrétiens de troubles à l'ordre public. Ce sont les raisons politiques ou administratives qui sont mises en avant pour justifier la persécution. Il me vient à l'esprit tout de suite la fermeture des églises en Algérie, à qui on a reproché de ne pas avoir rempli toutes les conditions pour pouvoir continuer à utiliser les bâtiments dans lesquels il prie. Paul a été victime de ce genre d'accusation. On peut lire en Acte 24, « Nous avons découvert que cet individu, il s'agit de Paul, est un danger public. Il provoque des troubles chez les Juifs, dans le monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. » Et en Acte 16, ils les présentèrent, il s'agit là de Paul et de Silas, ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. Alors, faisons maintenant un saut en avant de 2000 ans. Et transportons-nous en Corée du Nord. La Corée du Nord, l'Église chrétienne, est entièrement souterraine et secrète, j'y arriverai. Si un chrétien est découvert, il est soit abattu sur place, soit envoyé en camp de travail forcé avec sa famille, et ça pendant de très nombreuses années. On incite dans ce pays les enfants à dénoncer leurs parents. Le christianisme est condamné publiquement. Porte Ouverte estime que c'est entre 50 000 et 70 000 chrétiens qui sont emprisonnés à l'heure actuelle pour leur foi. Un autre exemple en Chine. Alim Jan Yimit, c'est le nom d'une personne qui est d'ethnie ouïghour. Il était employé d'une société agricole britannique et il était en même temps responsable d'une église de maison. Il a été arrêté et incarcéré en 2008. Pendant 18 mois, il n'a pas pu voir sa famille. De plus, il a été maltraité et obligé d'aller à l'hôpital. Finalement, c'est en octobre 2009 seulement qu'il a appris qu'il avait été condamné à 15 ans de prison pour, écoutez bien, révélation de secrets d'État à des organisations étrangères. Mais pour les témoins, qui l'ont connu, il ne fait pas de doute que c'est bien en raison de sa foi qu'il a été embastillé. Après les motifs d'ordre public, on peut être persécuté, aujourd'hui et hier, pour des motifs religieux. Paul a été lui-même accusé pour ce genre de motif. Il est vrai qu'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu ne pouvait que scandaliser les Juifs. Je citerai un exemple rapporté en Actes 18. À l'époque où Gallion était gouverneur de la province d'Achaïe, les Juifs se mirent d'accord pour se saisir de Paul et l'emmenèrent devant le tribunal. Là, ils l'accusèrent ainsi. Cet homme cherche à persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon qui est contraire à la loi. Aujourd'hui, cette persécution, pour des raisons religieuses, se retrouve essentiellement dans de nombreux pays où l'islam radical est la religion dominante, voire même religion d'État. Et je souhaiterais m'attarder sur le cas d'une jeune femme pakistanaise qui s'appelle Asia Bibi. Alors Asia Bibi, c'est un diminutif qu'on emploie, semble-t-il, beaucoup dans les milieux chrétiens pakistanais. Que lui est-il arrivé ? Eh bien, en juin 2009, dans un village du Punjab, c'est au Pakistan oriental, une jeune femme, Asia Bibi, de 38 ans, travaille dans un champ avec d'autres femmes. Elle veut se désaltérer et se dirige vers un récipient où il y a de l'eau qui sert à tout le monde. Elle veut tremper son gobelet dans l'eau pour boire. Et à ce moment-là, une de ses consoeurs lui dit « Tu ne peux pas, tu es chrétienne, tu es donc impure, tu n'as pas le droit de salir notre eau. » Et à ce moment-là, il y a entre les deux femmes une dispute qui éclate. On ne sait pas trop ce qui s'est dit. Mais Asia Bibi est accusée de blasphème par la femme et traînée devant le tribunal et embastillée d'abord, emprisonnée, et traînée devant le tribunal, qui la condamnera à mort pour pendaison. Et ça s'est passé le 8 novembre 2010. L'affaire est jugée en appel le 16 octobre 2014 par la Haute Cour de Lahore, qui est la Haute Cour de l'État. La condamnation d'Asia Bibi à ce moment-là est confirmée. Mais elle dispose d'un ultime recours devant la Cour suprême du Pakistan, qui l'innocentera le 31 octobre 2018, c'est-à-dire 9 ans après son incarcération. Dès cet instant, des manifestations violentes organisées par le parti islamiste radical TLP ont lieu dans le pays pour que soit appliquée la peine de mort envers Asia Bibi. Je vais vous lire une déclaration du parti islamiste radical TLP. Les musulmans pakistanais prendront les mesures adéquates face aux juges et les conduiront à une fin horrible. Les adorateurs du prophète ne reculeront face à aucun sacrifice. C'est une décision extrêmement injuste, cruelle, totalement détestable contre la charia, a réagi un imam d'Islamabad. Tout ça pour un verre d'eau. Après plusieurs jours d'émeute, un accord a été signé entre le gouvernement et le parti TLP, dans lequel le gouvernement s'engageait à ne pas laisser sortir Asia Bibi du pays et à ne pas s'opposer à un nouveau recours des extrémistes contre la décision de la Cour suprême. Et c'est le 29 janvier 2019 que cette décision de la Cour suprême est intervenue et a rejeté le recours contre son acquittement. Finalement, Asia Bibi a pu quitter le Pakistan en mai 2019 pour le Canada, où elle réside actuellement. Son lieu de résidence est tenu secret parce qu'elle court encore des dangers. En effet, les imams du Pakistan ont lancé un appel aux imams du monde entier afin qu'ils tuent Asia Bibi. Selon Porte Ouverte, en 2018, au Pakistan, au moins 28 chrétiens ont été tués. En 2018, 56 chrétiens sont actuellement emprisonnés et 28 églises ont été détruites. Alors me direz-vous, comment peut-on supporter tout ça ? Comment rester fidèle dans ces conditions ? Comment Paul peut-il supporter les souffrances qu'il a supportées ? Comment font les chrétiens du Pakistan ou de Chine pour continuer à vivre leur foi, malgré les menaces, malgré les coups, malgré la prison ou les camps de travail ? Je vais vous lire un passage de l'évangile de Jean. C'est Jésus qui parle. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce lien entre Paul et Jésus est aussi fort que le lien qui unit le cep de vigne à ses sarments. Les sarments que nous sommes ne peuvent pas vivre sans le cep. La communion avec le Seigneur est le moyen par lequel tout ce qui est en lui nous est communiqué. Comme le sarment reçoit la vie du cep auquel il est uni. L'attachement vital dont nous avons besoin, celui qui compte vraiment dans notre vie, c'est l'attachement à Christ. Si nous voulons être des disciples, il faut que nous soyons des sarments. Si vous ne demeurez pas en moi, dit Jésus, vous ne pourrez pas porter du fruit. Et pour y arriver dans notre marche quotidienne, il faut être en communion étroite avec lui. En maintenant ainsi un contact permanent, nous devenons conscients de sa présence en nous. Nous demeurons conscients de sa force. Nous devenons conscients des ressources spirituelles qu'il nous communique. C'est Paul qui nous enseigne. Depuis sa conversion spectaculaire, il a acquis la certitude que Christ est désormais le maître de sa vie et que Paul, lui, est son serviteur. Plusieurs éléments concourent à conforter dans l'esprit de Paul cette confiance. C'est Dieu lui-même qui s'est adressé à lui et qui l'a envoyé en mission. Deuxièmement, il connaît désormais le but de sa vie. C'est proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Troisièmement, il accomplira sa mission en sachant qu'il va souffrir. Malgré ses souffrances, il fait confiance à celui qui l'a envoyé. Et enfin, il s'identifie totalement à Christ. Tous ces éléments font que Paul vit dans une communion étroite avec Christ. Cette communion prend de plus en plus de place chaque jour, jusqu'à se transformer en une confiance et un abandon total. Alors, nous ne ressemblons pas tous à Paul, mais nous devons essayer d'être chaque jour des sarments qui se nourrissent au cep. Même si nous n'en avons pas toujours conscience, Dieu nous équipe toujours pour la mission qu'il nous confie. Si nous voulons demeurer en Christ, être sans cesse en union avec lui, il nous faut consacrer du temps à approfondir cette relation, en passant du temps dans la prière, en lisant sa parole. Au plus fort d'une tempête, en Méditerranée, Paul s'est adressé aux passagers d'un bateau dans lequel il était, avec eux, en route vers Rome. « Mes amis, courage ! J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Nous devons échouer quelque part sur une île. » Dans les difficultés, nous avons souvent du mal à nous concentrer sur autre chose que les vagues gigantesques qui nous assaillent. On a souvent des moments de découragement, et c'est dans ces moments-là qu'il ne faut surtout pas s'éloigner de Dieu, qu'il faut relire et croire les promesses que Dieu nous fait. Je retiendrai deux versets de Ésaïe 43. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et si les tempêtes de la vie menacent de nous faire sombrer, Dieu est fidèle. Il nous promet, je serai avec toi. Alors, comptons sur lui. Seigneur, je sais que si tu es à bord avec moi, mon bateau ne coulera pas et je m'en sortirai. La foi, cette confiance en Christ, c'est elle qui a permis à Paul de tenir, de surmonter ses souffrances, de courir sa course jusqu'au bout. C'est elle aussi qui a permis à Asia Bibi de vivre pendant 10 ans dans l'angoisse de la mort. C'est elle, enfin, qui permet à plus de 240 millions de chrétiens persécutés de tenir ferme. Comme Paul hier, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, chinois ou pakistanais ou d'autres pays, nous disent « Je sais ce que le Seigneur veut que je sois et veut que je fasse. Et par sa puissance, je le serai et je le ferai. » Sans tenir compte de ce que le monde peut penser, dire ou faire, je tiendrai ferme dans la foi. Je pense donc que nous aurons beaucoup grandi dans notre foi lorsque nous pourrons dire ça en vérité. Amen. Tu veux le voir? C'est l'engagement.
frères et sœurs, sont là aussi pour nous encourager.
L'exemple nous appelle à prendre aussi des engagements avec notre Seigneur. Voici un exemple d'engagement que nous pouvons prendre de notre côté pour vivre notre foi avec Dieu. Je vous invite à le lire un peu en application de cette prédication. Je vais vous le lire et puis vous pouvez suivre la lecture. Je soulignais, reconnais qu'en tant qu'enfant de Dieu, le fait de vivre à contre-courant est la conséquence du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous de ne pas suivre les préceptes de ce monde, mais de témoigner d'un autre monde, celui du royaume de Dieu. En tant que chrétien, je m'engage à vivre ouvertement ma foi, malgré les attentes et les opinions de ceux qui m'entourent. Je resterai attaché à Christ, tout en comptant sur sa grâce, même si les difficultés apparaissent. Ma vie doit témoigner que Dieu est ma priorité, et je serai intègre pour dire la vérité. Quel que soit le régime politique ou la société dans laquelle je me trouve, je continuerai à vivre à contre-courant. J'obéirai à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à me soumettre au plan de Dieu, car ses plans sont toujours bienveillants et bons.